Métaphysique, 3 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint Rosaire.
Priez-vous. Priez-vous.
Continue ce que j'avais commencé de reprendre un peu avec vous, cette question de la philosophie première, pour bien comprendre ce que la philosophie première doit dire et ce qu'elle ne dit pas. C'est toujours très important. La métaphysique ne dit pas tout. La philosophie première ne dit pas tout. Alors c'est important toujours de bien se rappeler ce que nous devons demander à la philosophie. Ce que la philosophie doit être pour nous. Alors, j'avais essayé de vous montrer le point de départ de toute recherche philosophique. C'est toujours la recherche de l'homme et de la personne humaine, en définitive. Je ne fais pas de la philosophie pour mieux connaître l'univers. Ça a commencé comme ça. C'est très curieux. Thalès, les vieux philosophes de Milet. Connaître l'univers. Mais si vous êtes attentif, ce n'est pas une connaissance de l'univers comme on verrait la physique d'aujourd'hui. C'est la connaissance de l'origine de l'univers. C'est donc connaître au fond ce qu'il y a de fondamental et de premier. Et si on est attentif, on voit bien que c'est toujours en fonction de l'homme. Mais évidemment, la science moderne, quand je prends la science moderne, c'est tout le développement de la science qui s'est fait que le philosophe doit être plus philosophe. Et je crois que ça exige, dans notre monde d'aujourd'hui, de préciser d'une manière beaucoup plus nette ce qu'est la philosophie à cause de tout le développement des sciences physiques, biologiques, psychologique, sociologique, et ainsi de suite, pour mieux comprendre ce que ces sciences peuvent dire, ce que ces sciences ne disent pas, et ce que le philosophe doit apporter. Il n'y a pas de rivalité entre la science et la philosophie. Il y a deux perspectives différentes. Et c'est ce qu'on doit toujours essayer de comprendre. Il n'y a pas de rivalité. Il peut arriver que les sciences, sous une idéologie positiviste, refusent la philosophie. Mais alors, c'est une idéologie et ce n'est pas la science. La science n'est pas une idéologie. Et le jour où la science devient une idéologie, ce n'est plus la science. Alors, qu'est-ce que ça fait quand la science devient une idéologie? C'est que la science, alors, à ce moment-là, à la place d'être une connaissance particulière, elle veut être une connaissance totale. Elle veut être la connaissance absolue. Et alors à ce moment-là, elle devient rivale de la philosophie. Et je crois que c'est très important de bien saisir ce point de vue-là. La science ne peut pas être rivale de la philosophie, parce qu'une science est toujours partielle. Et le développement des sciences, on le voit bien, vous n'avez qu'à regarder combien les sciences se sont développés ces derniers temps, c'est dans quelques siècles, mais elles se sont développées ces derniers temps et toujours elles se particularisent. C'est même très curieux le cheminement de la science, c'est que toujours va vers une particularisation plus grande, plus grande, plus grande. Alors que la philosophie ne se particularise pas. Et c'est le propre de la philosophie. Alors, entre les sciences et la philosophie, faisons attention, parce que très souvent, il y a des idéologies. Et l'idéologie prend possession de la science pour faire que la science particulière devienne idéologie, c'est-à-dire devienne un tout, par la méthode dialectique. C'est ça qui est intéressant à voir. La méthode scientifique n'est pas dialectique, c'est une méthode d'analyse. Tandis que la dialectique n'est pas une analyse. Alors la dialectique, elle s'est forgée avec les idéologies, elle s'est développée avec les idéologies, elle est très vieille, hein, puisqu'on peut dire que chez Platon, on assiste à une première dialectique. Et on peut dire qu'avec Platon, on assiste à une première philosophie idéologique. Elle est tout à fait différente des idéologies modernes. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de compromis. Mais c'est quand même une première sorte d'idéologie. Ce sont les idées en soi qui commandent toute la vision du monde. Ce sont les idées en soi qui commandent la vision de l'homme. C'est une certaine idéologie. Et ça provient de la connaissance, de la réminiscence. Donc c'est l'homme dans sa connaissance qui mesure toute chose. Et c'est bien cette idéologie qui mesure toute chose. Alors on retrouve dans les idéologies modernes quelque chose qui est apparenté à ces idéologies. Ce serait très intéressant de voir comment l'idéologie de Platon a donné naissance à deux sortes de philosophie, l'ontologisme et les idéologies athées, qui sont l'opposition de l'ontologisme. Il y a quelque chose à saisir là, au point de vue de l'histoire de la pensée, et qui est très, très importante si on veut entrer un peu dans le développement même de l'histoire de la pensée. De la philosophie de Platon est né l'ontologisme. Ça, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Et de l'ontologisme sont nées les idéologies athées. Et Hegel fait le lien entre les deux. Hein. Parce que Hegel, c'est de l'ontologisme et c'est de l'idéologie. Mais ce n'est pas une idéologie athée, c'est une idéologie qui exalte l'homme d'une manière telle que Dieu n'existe plus. C'est la pensée de l'homme qui prend tout. C'est la dialectique qui prend tout. Alors, à partir de l'hégélianisme, sont nées les idéologies athées. Vous voyez ? C'est assez complexe, mais c'est quand même important de voir que la source commune, c'est le platonisme, ou le néoplatonisme. Donc, comprenons bien le développement de la philosophie aujourd'hui, face à la science, face aux idéologies. Il faut essayer de découvrir ce que peut être une connaissance d'un caractère particulier, qu'on précisera progressivement, le caractère propre de la connaissance philosophique, qui regarde l'homme et qui est toujours lié à l'homme. Et c'est pour ça que je crois qu'une philosophie d'aujourd'hui doit commencer par l'étude de l'homme travailleur. Pas à cause du marxisme, hein, mais c'est quand même important de pouvoir répondre au marxisme. Le marxisme est une idéologie du travail. Ce n'est pas une philosophie du travail. C'est une dialectique de la praxis. Ce n'est pas une philosophie du travail. Et en définitive, dans le marxisme, l'homme disparaît. Et la praxis prend tout. Et donc l'homme est relatif à la praxis, ce qui montre bien qu'on est en présence d'une idéologie, où l'homme est relatif à l'idéologie, et l'idéologie n'est pas pour l'homme. Alors qu'une philosophie réaliste est toujours ordonnée vers l'homme, et elle doit être pour l'homme, parce que c'est l'homme qui réfléchit sur ce qu'il est. On pourrait dire que c'est ça la philosophie. C'est l'homme qui réfléchit sur ce qu'il est et qui essaie de comprendre en profondeur toutes les grandes dimensions de l'homme. Qui essaie de comprendre ce que l'homme peut découvrir de lui-même dans ses propres activités. C'est à partir de mes activités que je me découvre. Ça, c'est sûr. Parce que si vous réfléchissez sur ce que vous êtes, indépendamment de vos activités, vous ne vous découvrez pas du tout. C'est à partir de votre activité de dominer l'univers, le travail, que vous découvrez cette dimension particulière de l'homme qui est capable de dominer l'univers. L'homme homo faber. Vous découvrez qu'il y a une autre dimension tout à fait différente, l'homme capable de rencontrer l'homme, de dialoguer avec l'homme, de l'aimer et d'être uni à lui. Et vous découvrez à ce moment-là, dans l'amour d'amitié, la responsabilité de l'homme. Vous voyez, la responsabilité, elle existe au niveau du travail, mais pas du tout de la même façon. Parce qu'au niveau du travail, vous dominez. Celui qui domine, il est bien responsable, mais il est responsable en dominant. Vous avez toujours remarqué que les responsabilités de ceux qui dominent sont des responsabilités très particulières, parce qu'ils sont seuls responsables. Tandis que dans le point de vue de la responsabilité au niveau de l'amour d'amitié, on est responsable avec un autre. On est responsable dans une coopération. Alors c'est tout à fait autre chose. On est responsable à partir d'un amour. Et on respecte l'autre. On doit bien respecter la matière quand on la travaille, c'est sûr. Et donc il y a une certaine responsabilité qui existe à l'intérieur de la philosophie du travail. Mais cette responsabilité n'est pas ce qu'il y a de premier dans le travail. Tandis que dans l'amour d'amitié, il y a tout de suite cette responsabilité. La responsabilité à l'égard de l'autre. À l'égard de l'autre, c'est-à-dire à l'égard de la personne de l'autre. Donc, nous avons ces deux dimensions et tout de suite la troisième, la coopération. Je vous ai dit, toute la philosophie repose sur ces trois premières expériences que nous devons analyser, que nous devons essayer de comprendre en profondeur pour comprendre comment l'homme est capable de dominer l'univers, capable de rencontrer son semblable, et en rencontrant son semblable, il se découvre lui-même, et comment il est capable de coopérer avec lui. Nous avons donc la philosophie du facere, du faire, la philosophie éthique et la philosophie politique. Et je crois que la philosophie politique repose sur cette coopération. S'il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de philosophie politique. Nous essaierons l'année prochaine de comprendre un peu les dimensions d'une philosophie politique. À la suite de l'éthique, il faut comprendre cette dimension nouvelle. Il y a une dimension nouvelle. Alors, y a-t-il de nouveaux principes ? N'y a-t-il pas de nouveaux principes ? Le statut critique de la philosophie politique est très difficile. Très très difficile. Et de fait, c'est un des aspects de la philosophie qui a été très abandonné. C'est curieux. Alors, ça a été très développé du côté scientifique, au point de vue sociologique, au point de vue... ça s'est développé, mais en dehors du point de vue philosophique. Et je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, nous devons reprendre une philosophie politique, c'est-à-dire une philosophie de la famille, une philosophie du travail au niveau communautaire, et une philosophie proprement politique. Je crois qu'il y aura toujours les trois dimensions d'une communauté. Et ces trois dimensions d'une communauté doivent essayer de se comprendre au niveau d'une philosophie communautaire. Alors, on pourrait dire philosophie communautaire pour mieux comprendre que la communauté est d'abord familiale, puis la communauté des travailleurs, puis la communauté politique. Et dans la communauté politique, vous auriez tout de suite une communauté internationale. Aujourd'hui, ce qu'Aristote évidemment ne pouvait pas comprendre, puisque pour lui, en dehors des Grecs, il y avait les barbares. Hein. Alors c'est évident qu'à ce moment-là, l'international est assez particulier. Et on est toujours un peu tenté de faire la même chose, hein, parce qu'il y a toujours ceux qui ne sont pas avec nous, et ceux qui ne sont pas avec nous sont nécessairement des barbares. Et alors il faut s'élever à un regard politique suffisamment élevé. Ce que les stoïciens avaient déjà saisi. Il faut bien comprendre qu'en philosophie grecque, les stoïciens avaient compris que l'homme était citoyen du monde. Et quand les stoïciens découvrent que l'homme est citoyen du monde, ils découvrent une politique qui est ouverte au monde. C'est la grandeur du stoïcisme, ça. Le stoïcisme a beaucoup de petits côtés, mais il a un grand côté, comme presque toute philosophie. Toute philosophie a un petit côté et un grand côté. Alors si on regarde le petit côté, on est tenté de les critiquer énormément. Si on regarde le grand côté, on voit qu'ils ouvrent quelque chose. Et la philosophie stoïcienne, à ce point de vue-là, vous voyez, préparer le caractère catholique de la chrétienté. Parce que c'est la dernière philosophie qui, de fait, venant de la Grèce, est venue à Rome. Et c'est cette philosophie qui a reçu le christianisme. Ce n'est pas l'aristotélisme qui a reçu le christianisme, c'est le stoïcisme. Historiquement, c'est comme ça. On peut peut-être le regretter, mais c'est un fait. Et les pères de l'Église ont d'abord été stoïciens, ont eu cette vision-là. Ce n'est que progressivement que la philosophie grecque a été entièrement assumée par le croyant. C'était le stoïcisme, Philon. Philon a été le premier théologien juif et premier théologien reçu par les chrétiens et refusé d'Israël. Très très curieux. La position de Philon à ce point de vue-là est très intéressante. Mais c'est une philosophie stoïcienne. Puis après ça a été le néoplatonisme, du reste le néoplatonisme doit beaucoup aux stoïciens. Et puis ensuite l'aristotélisme. C'est très curieux comment progressivement la philosophie grecque a été assumée par le point de vue croyant. On comprend du reste cette vision providentielle de Dieu. Bon, je vous disais, un des gros points très importants sur lequel nous devons réfléchir dans notre monde d'aujourd'hui, c'est de voir que la connaissance pratique est distincte de la connaissance spéculative. Autrement dit, comprendre que la philosophie pratique, qui est le fondement, le triangle de base, il faut tout le temps comprendre qu'il y a un triangle de base, trinitaire, le triangle de base, sur lequel s'édifie toute la philosophie. Si nous voulons avoir une philosophie qui est toute tournée sur l'homme. Alors, vous avez ce triangle de base. Homo faber, donc le travail, l'amour d'amitié, et puis le point de vue de la coopération. Pour que la coopération soit parfaite, il faut être trois. Pas de communauté sans être trois. Tandis que l'amitié, on est deux. Je ne dis pas que dans le travail, on est seul. Mais c'est un petit peu comme ça. Le travailleur est silencieux. Tu vois? Joseph, le silence du travailleur. C'est vrai, c'est très curieux. Alors, le travail face à la matière. Mais la matière ne parle pas. C'est pour ça qu'un vrai travailleur devient silencieux. C'est une méthode merveilleuse à prendre du silence. Il n'y a pas de bavardage dans le travail. Ça exclut. Un travailleur est un travailleur. Il devient silencieux comme travailleur. Il est un. C'est curieux. Un, deux, trois. Tandis que dans l'amour d'amitié, il y a le dialogue. Hein, et un dialogue éternel. Quand on est avec son ami, on peut indéfiniment parler. C'est évident. Ça développe énormément. Et ça développe non pas le bavardage, parce que c'est le dialogue. Dialogue n'est parfait qu'au niveau de l'amitié. Et alors, la coopération va maintenir les deux, le travail et puis le dialogue. Et c'est à partir de là que va naître la rhétorique. Au niveau coopération, c'est très très curieux. La rhétorique naît au niveau politique. Elle ne naît pas dans l'amitié. Parce que dans l'amitié, si vous avez un ami qui est rhéteur, oh, je te connais, tais-toi. Tandis que dès que vous êtes au niveau politique, c'est la rhétorique qui naît. C'est très l'agora, tout de suite. Voilà. Il y a un besoin de rhétorique. C'est très très curieux ces choses-là. C'est intéressant de voir où naissent les grands problèmes. Il y a trois fondements de toute la philosophie qui est une philosophie de l'homme. Et l'homme, c'est bien ces trois grandes dimensions premières. L'homme est capable de faire une œuvre, L'homme est capable d'aimer l'autre. L'autre, c'est lui. Et l'homme est capable de coopérer avec les autres. Dans une coopération, et à partir de là, va naître le bien commun. Le bien commun qui va naître à partir de là, à partir de cette coopération. Il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas seulement l'œuvre, c'est plus. L'œuvre est simplement un fruit. C'est un effet de l'œuvre. Et l'œuvre est aussi une fin. Et alors, l'aspect fin va apparaître dans le bien commun. Très curieux, ces choses-là. Et c'est intéressant de voir comment, de fait, les choses se développent progressivement et qu'il y a ces trois grandes dimensions de l'homme. Trois dimensions pratiques. Là, on est vraiment en face d'une connaissance pratique de l'homme. Tout le monde peut comprendre cette philosophie-là. Parce qu'elle est pratique. Il faut tout le temps y revenir. C'est par là qu'on peut communiquer la philosophie. La philosophie doit se communiquer par la philosophie du travail, par la philosophie éthique, la morale et par la coopération. Tout le monde peut comprendre ça. Parce que cette philosophie-là est beaucoup plus descriptive. Nous avons une expérience tous du travail, de l'amour d'amitié, de la coopération. Et cette expérience est d'autant plus cuisante quand elle ne réussit pas. On est... Alors on sait très bien qu'il y a des blessures dans le travail. Le travail demande l'œuvre, demande la réussite, et le travail demande d'une certaine manière la gloire. Mais la gloire n'existe que dans la coopération. Parce que si vous êtes seul, il n'y a pas beaucoup de gloire, c'est le silence. Alors le silence, c'est la gloire qui se tait. Parce que s'il faut un autre pour qu'il y ait de la gloire. C'est pour ça que le travail va appeler la coopération. Toujours. Parce que le travail, c'est le travail vis-à-vis de la matière est silencieux. Regardez, le travail qui est parfait dans l'artisan, on voit combien un véritable artisan est silencieux. C'est une chose très étonnante, ça, de voir qu'un artisan est silencieux. Il a besoin de ce silence dans le travail. Alors vous voyez que là, on voit la transcendance de la matière. Transcendance de l'autre, de la vie, et la coopération, c'est l'immanence. Très intéressant. Nietzsche a senti ça. Il a très bien senti que la matière sur laquelle on travaille, a quelque chose qui nous dépasse. La matière nous est donnée. C'est une transcendance très particulière, la matière, parce qu'on la domine. Mais c'est quand même quelque chose qui nous est donné. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons. L'ami, c'est aussi quelqu'un qui nous est donné. On ne manipule pas un ami. On le respecte. Et on reconnaît sa transcendance parce qu'on reconnaît que c'est mon bien. Et l'immanence se découvre dans la coopération. Alors, il y a bien une transcendance, mais une transcendance à l'intérieur de l'immanence. Intéressant à voir ces choses-là. Il faut y réfléchir beaucoup parce que c'est le fondement de toute philosophie. Et toute notre philosophie se fonde sur ces trois grands aspects sur lesquels nous devons constamment venir. Et on ne peut pas négliger cela, c'est impossible. Si on le néglige, on ne fait plus de la philosophie, on tombe dans des idéologies. Alors, pour éviter toute idéologie, il faut essayer de comprendre que cette connaissance pratique va être source d'un autre type de connaissance, d'une connaissance dite spéculative, d'une connaissance dite théorétique, d'une connaissance contemplative. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est ça qui est important à saisir, parce que ça, on doit le découvrir dans notre monde d'aujourd'hui. Exactement comme Aristote l'a découvert face à Platon, nous devons, face à Hegel et face à la dialectique d'aujourd'hui, aux dialectiques d'aujourd'hui, aux idéologies d'aujourd'hui, nous devons découvrir que la connaissance pratique, si noble qu'elle soit, n'est pas la connaissance tout court. La connaissance intellectuelle demande un dépassement à l'égard de cette connaissance pratique. Il y a un certain dépassement. un dépassement qu'il faut réaliser. Il faut arriver à cela, à saisir que l'intelligence est faite pour la vérité, aimer pour elle-même, puisque c'est ça le propre de la connaissance spéculative, c'est d'aimer la vérité pour elle-même. L'intelligence n'est pas premièrement pour réaliser une œuvre. L'intelligence n'est pas premièrement pour diriger une action. L'intelligence n'est pas premièrement pour gouverner, ordonner. Elle est faite premièrement pour connaître. Et vous savez bien ce qu'Aristote dit au début de la métaphysique, qui reste vrai, et qui est très beau. Il fallait le découvrir. L'homme aime de regarder, de voir, pour le plaisir de voir. Il voit le petit signe d'une connaissance spéculative dans la vision. Celui qui aime de regarder pour regarder. C'est le gosse qui aime de regarder la beauté du soleil, d'un coucher de soleil. Là, je me souviendrai toute ma vie. Ça. J'avais 7 ans, ce petit gosse. Intelligent. Il était sur un mur, il y avait les chaînes, dit-il, sur le mur, ventre sur le mur, et puis regardez le coucher de soleil. Un très beau coucher de soleil. Alors j'arrive, je prends par la peau du dos pour faire attention qu'il n'était pas. Je lui dis, c'est beau. Alors il m'a regardé. Il dit, Dieu est beau. C'était étonnant. C'était la soif de contemplation, de beauté et de grandeur. C'est la phrase d'Aristote. On aime de regarder pour regarder. Alors lui, comme il était chrétien, c'est Dieu. La vision. C'est le petit signe. Hein, c'est le petit signe que la connaissance est faite pour la connaissance. Découvrir à l'intérieur même de la connaissance la finalité de la connaissance. La connaissance est faite pour contempler. Vous voyez, c'est très très important dans notre monde d'aujourd'hui, parce qu'au fond, toute la dialectique, toute la connaissance dialectique de notre monde d'aujourd'hui, donc toutes les idéologies de notre monde d'aujourd'hui, nient la contemplation. Nous sommes dans un monde qui nie la contemplation. Ça, il faut bien le comprendre. Si on ne fait pas grande attention, eh bien, de fait, la contemplation est niée par toutes les idéologies modernes. Alors, ces idéologies modernes n'ont pas encore épuisé un trésor de tradition et de culture qui est contemplatif. Et ça commence. S'il n'y a pas la contemplation, c'est l'efficacité pour l'efficacité. Et la culture moderne, vue dans les idéologies modernes, c'est l'efficacité. Alors, vous voyez, il y a là un problème philosophique que je crois capital pour nous. C'est d'essayer de comprendre comment la connaissance pratique, dans le travail, dans l'amour d'amitié, dans la coopération, donc les trois dimensions, de la connaissance pratique. La connaissance pratique a trois dimensions. Les trois dimensions de la connaissance pratique. La connaissance pratique du facere, à l'intérieur du facere, il y a beaucoup de demeures. Puisque je dirais toutes les demeures de l'art, toutes les demeures de la vie qui sont multiples, hein, mais il y en a trois grandes, il y a trois grandes dimensions. Il y a la connaissance pratique ordonnée à l'œuvre, la connaissance pratique ordonnée à l'action, il y a l'amour, et la connaissance pratique ordonnée à l'organisation, au gouvernement, ordonnée à la loi. Trois espèces, trois dimensions de la connaissance pratique. Et bien comprendre que ces trois dimensions de la connaissance pratique demandent d'être développées par la connaissance spéculative. Vous voyez, ce n'est pas suffisant, hein, de dire, ah oui, il y a deux espèces de connaissances, la connaissance spéculative et la connaissance active. Ça, c'est la leçon qu'on a apprise. On sait très bien. Aristote dit ça, saint Thomas dit ça, je le répète. Il faut le redécouvrir nous-mêmes. Parce que nous sommes en face d'un monde où ces trois connaissances pratiques sont comme l'absolu. Dans les idéologies. Vous avez des idéologies esthétiques, c'est surtout du côté esthétique et du côté politique. N'est-ce pas ? Parce que du côté amour, il n'y a pas beaucoup d'idéologie. L'amour résiste à l'idéologie. Dès que vous avez l'expérience d'un certain amour d'amitié, vous ne pouvez plus accepter la dialectique hegelienne. C'est impossible. Ou bien là, vous dites oui, d'un côté, il y a ma vie, et puis de l'autre côté, il y a la philosophie. Mais dès qu'on a l'expérience, c'est l'amour qui sauve de la dialectique. Mais alors il faut découvrir que, au-delà de ces trois dimensions de la connaissance pratique, il y a une connaissance dite spéculative. Alors je vous dis, il y a un petit signe. C'est important. Il faut toujours saisir le signe. Le signe, c'est un levier. Il y a un signe qui nous montre que, de fait, il y a une connaissance spéculative. C'est que j'aime de regarder pour regarder. C'est pour ça que c'est important de développer nos sensations, la sensation de vision. Oui, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et la connaissance spéculative a besoin de la vision. Et c'est la vision qui nous sauve, qui nous fait comprendre comme un petit signe. Pas plus, hein, ce n'est pas une démonstration, c'est un petit signe. Alors, comment vais-je découvrir qu'il y a une connaissance spéculative ? Je crois que c'est le point de vue de la matière. La terre vint au service de la femme. Vous savez, c'est dit dans l'Apocalypse, hein, cette petite phrase extrêmement curieuse. Hein, elle est poursuivie par l'idéologie du démon. Et le démon essaie toujours de nous mettre dans son idéologie. Il dit, la terre vient au service. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la matière exige de nous une connaissance qui n'est pas la connaissance pratique, la connaissance réalisatrice. Vous allez comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une certaine transcendance. La matière, c'est une certaine transcendance. Pourquoi ? Parce que la matière est un donné. Voyez le sculpteur, voyez le menuisier. Il regarde son bois avant de travailler. Si c'est un véritable artisan, celui qui exécute, non. On a présupposé regarder la chose, j'exécute, c'est tout. On m'a donné ce bois, puis on se cassera la tête, ça n'a pas d'importance, on exécute. Mais l'artisan, c'est très curieux de surprendre l'artisan à regarder son bois avant de le travailler. Il le regarde, il le touche, il regarde tout de suite, il voit s'il y a des nœuds, si c'est un bois qui pourra être correct ou pas, exactement comme le sculpteur. Et même le sculpteur qui va jusqu'au bout aimera de voir d'où sort le granit qu'il prend, d'où sort le marbre qu'il a pris, pour mieux le connaître. Autrement dit, avant la connaissance du facere, il y a la connaissance de la matière, qui est une connaissance pour elle-même. On touche, on le regarde, on essaie de le comprendre. Donc, on voit qu'il y a dans la matière quelque chose d'irréductible à la connaissance du facere qui aboutit à l'œuvre. Dans l'œuvre, la matière est présente. Et surtout dans l'œuvre artisanale, la matière est très présente. Donc, vous voyez un menuisier qui fait des bancs. La matière est très présente dans les bancs. C'est évident. Quand il fait une table, la matière est très présente. Quand c'est une œuvre d'art, la matière est tellement transformée, quelquefois vous ne la voyez plus. du rococo. Hein. Ça veut dire c'est tellement transformé, il y a tellement de dentelles, il y a des trous. Alors à ce moment-là, vous ne voyez plus la matière. Tandis qu'au contraire, dans une œuvre artisanale, la matière est très présente. On dirait presque l'œuvre, c'est de mettre en lumière la matière. Je crois que quand l'art artisanal est très très poussé, l'artiste met en lumière la matière. Et la matière apparaît dans toute sa force. C'est une des choses qu'on redécouvre aujourd'hui, n'est-ce pas ? On redécouvre ça très fort. Et c'est une des choses belles et bonnes de notre monde d'aujourd'hui, de redécouvrir la matière et de la mettre en pleine lumière. Ça, c'est l'œuvre artisanale. Alors, vous voyez qu'il y a donc à l'intérieur de l'œuvre la matière, et que la matière doit être connue avant de la transformer. C'est là où je me sépare de l'idéologie marxiste. Pour l'idéologie marxiste, il n'y a qu'une seule connaissance, la connaissance de la transformation de la matière. Le jour où on comprend, et c'est du bon sens, hein, le jour où on comprend qu'il y a une connaissance antérieure à la matière que la transformation de la matière, vous ne pouvez plus être marxiste. Impossible. Parce que vous reconnaissez qu'il y a deux manières de connaître les choses. Une manière simplement la regardant. Évidemment, c'est très bourgeois. C'est regarder, uniquement regarder, et avoir du plaisir de regarder. Tandis que l'autre, non, tout de suite la transformer. Et c'est très typique ça, c'est très important de saisir le moment précis où je me sépare de l'idéologie marxiste. Je m'en sépare dès que j'ai la praxis, c'est bien évident. Mais c'est important de bien saisir le moment où, de fait, on a quelque chose que l'idéologie marxiste ne dit pas. Il y a une connaissance de la matière antérieure à la transformation de la matière. Et ceci, tout homme intelligent qui sait ce que c'est que la transformation de la matière le reconnaîtra. Mais le cuisinier, hein, il transforme aussi les animaux. Mais s'il ne les regarde pas avant, il faut les éplucher avant, il faut enlever ce qui a moisi avant. Hein. Autrement, tout sera dans la marmite, hein, et alors on retrouvera des choses qui seront plus ou moins bonnes dedans. N'est-ce pas ? Si vous ne regardez pas les champignons avant, savoir s'il y a des bons ou mauvais, tout sera dans la marmite, transformé, et vous serez plus ou moins empoisonné. Il y a une connaissance de la matière qui est nécessaire avant la transformation de la matière. S'il y a cette connaissance de la matière avant la transformation de la matière, il y a donc possibilité d'une philosophie de la matière. Pourquoi ? Parce que l'homme implique la matière avec son corps. Je peux connaître cette matière avant de la transformer. Je dois donc la connaître, puisque je peux la connaître. Dès que le philosophe découvre une possibilité de connaissance, immédiatement, il s'en empare. Parce qu'il veut connaître l'homme pleinement et totalement. Or, l'homme est une partie de l'univers par son corps. L'homme implique le point de vue de la matière. La matière est présente dans son corps. Et donc, il doit connaître ce que représente cette matière physique. Ce n'est pas la matière prima, hein, vous comprenez bien. C'est la matière, tout simplement, la matière sensible, ce qu'on appelle la matière, ce qui est capable d'être transformé. La définition première de la matière. Là, on donne la main au marxiste. La matière, c'est ce qui est capable de transformer. C'est la première définition. Vous voyez, ce qui est capable de transformer. Je m'arrête à ce qui est. Ce qui est capable de devenir. On doit connaître cette matière. Je crois que c'est le premier moment où l'on découvre la nécessité d'une connaissance spéculative. C'est par la matière. Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est la connaissance du corps. C'est la connaissance du donné, antérieure à toute transformation. cette matière, je pourrai la transformer. Et lorsque je l'aurai transformée, ce sera une œuvre. L'œuvre n'est pas la matière. La matière est présente dans l'œuvre, plus ou moins, comme vous le disiez tout à l'heure, mais l'œuvre n'est pas la matière. Il y a donc une connaissance de la matière antérieure que je dois essayer de comprendre. Ce sera le premier développement de la connaissance de la philosophie spéculative. C'est une philosophie qui va regarder la matière. Philosophie de la matière. C'est ce qu'on a appelé, d'une façon classique, la connaissance de la nature. Je crois qu'aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est que la nature aujourd'hui, je crois qu'il faudrait prendre la philosophie de la matière. Ce serait beaucoup plus fort. Et cette connaissance de la matière, elle implique des déterminations. Ces déterminations fondamentales, autre chose est le bois, autre chose est le grès. Tout le monde est d'accord là-dessus. Autre chose est l'eau, autre chose est le feu. Des données que je retrouve tout le temps. Et alors j'essaierai progressivement de découvrir qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans cette philosophie, là où je suis obligé de m'arrêter, où mon intelligence ne peut plus analyser, parce que cette philosophie spéculative, elle implique une analyse. L'intelligence veut analyser. Elle veut analyser pour connaître cette matière. Et c'est dans l'analyse que je vois tout de suite que la matière physique qui m'est donnée implique des déterminations et implique une indétermination. Ça, c'est la première constatation. Toute matière que je connais implique des déterminations. Le bois n'est pas le grès, n'est pas le granit. Le bois, l'eau n'est pas le feu. Il y a des déterminations. Et pourtant, il y a une indétermination fondamentale qui permet à toutes ces réalités de se rencontrer. Dans leur indétermination. Dans leur indétermination, vous voyez, il y a quelque chose d'un dans notre monde physique. Alors ça, c'est la découverte progressive de ce qu'on a appelé la materia prima. Il faut la redécouvrir par ce problème de l'indétermination et de l'unité de notre monde physique. Quelque chose qui est commun. Et qui est cette indétermination fondamentale qui permet toutes ces déterminations et qui permet ce mouvement. Parce que ce monde physique, ce monde de la matière, c'est le monde du mouvement. C'est le monde du devenir. C'est l'expérience du devenir de ce qui est. C'est l'expérience de ce qui est vu qui fait découvrir cette philosophie de la matière. La philosophie de la matière commence par l'expérience de ce qui est mu, de ce qui est capable d'être mu, de ce qui est mu. Donc c'est toute la connaissance du devenir. Vous voyez que c'est par le point de vue de la matière irréductible à l'œuvre. Il y a quelque chose d'irréductible, quelque chose qui transcende l'œuvre, quelque chose de plus fondamental que l'œuvre. C'est la matière sur laquelle j'ai travaillé. Quelque chose de radical. Et ça, je veux le connaître. Puisque je peux le connaître, je veux le connaître. Et vous voyez que je fais appel là, tout de suite, aux sensations. Ce sont mes sensations qui me font connaître cette matière. Ce sont ces sensations qui me font connaître ce qui est mu. Je fais la même chose dans l'art d'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, il y a une limite. L'amour d'amitié ne domine pas complètement l'ami. L'ami est quelque chose qui me transcende. Non pas en tant qu'il est ami, mais en tant qu'il est une personne. Et une personne capable de mourir. Ah, c'est la mort. Le problème de la mort, qui est tellement actuel au point de vue philosophique, montre que l'ami, celui que j'appelle mon ami, n'est pas totalement mon ami. Il y a en lui quelque chose qui échappe à l'amitié. Exactement comme la matière échappe à l'œuvre. La mort me montre qu'il y a dans l'ami quelque chose qui n'est pas totalement mon ami. Pourquoi ? Parce que si c'était totalement mon ami, il ne mourrait jamais. Ça, c'est bien évident. Quand on aime quelqu'un, on veut que l'amour qu'on a pour lui le rend immortel. C'est inscrit dans l'amour. Vous savez, dans le Banquet, Platon a cette chose très très belle de montrer comment l'amour implique l'immortalité. Et c'est très vrai. L'amour spirituel veut que l'ami ne meure pas. Or, l'ami peut mourir. Alors, la mort me montre qu'il y a dans l'ami le vivant qui est antérieur à l'amour d'amitié. Il y a donc quelque chose de fondamental dans l'amour d'amitié qui échappe à l'amour d'amitié, le vivant. Une personne vivante, l'homme vivant. L'homme en tant que vivant est au-delà de l'amour d'amitié. Et l'homme vivant est capable de mourir. Il faut donc que j'étudie l'homme en tant que vivant. Second développement de la philosophie spéculative. Et nous verrons la fois prochaine comment, d'une certaine manière, la philosophie de la coopération va obliger de poser la troisième partie de la philosophie première, la troisième partie de la philosophie spéculative, la philosophie de ce qui est. Ce qui est très important aujourd'hui.